et bonjour. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous partager quelques messages et informations importants. Le premier, c'est merci. Merci, je le répète souvent, pour l'oreille qui écoute. Je ne sais pas si vous êtes dans le métro, dans votre lit ou en train de cuisiner, mais peu importe, merci. La seconde chose que je voulais dire, c'est que si vous me suivez sur Instagram ou que vous avez écouté certains épisodes précédents, vous savez que j'ai quitté mon emploi pour me lancer à mon compte. Non pas par opposition au monde salarié, hein, mais plutôt par besoin viscéral d'oser réaliser ce qui était devenu une évidence, et plus précisément deux activités, avec pour fil rouge les mots qui racontent des histoires et qui sèment des idées et impacteront au moins une personne, j'espère, d'une part en tant que consultante en communication et stratégie de contenu et rédactrice SEO, du coup mention spéciale pour les sujets autour de la santé, de la psychologie, de la nutrition et de la sexualité. Et ensuite, les mots pour aider d'autres personnes à rayonner par des suivis personnalisés réunissant mes connaissances en psychologie et en trauma, le tout infusé par une approche globale mêlant énergétique, tantra, polarité féminine et masculine, blocage émotionnel et outils somatiques sur lesquels je me forme depuis quelques temps. Et en vue de cette activité-là, j'ai créé un compte Instagram dédié et un nouveau podcast, Les mots, c'est bien beau, aux côtés de Pierre Kessial. Et je serai infiniment reconnaissante si vous prenez 2 minutes de votre temps pour répondre à un court sondage qui m'aidera justement à m'aligner aux besoins et challenges d'un maximum de personnes et qui vous concerne peut-être dans votre vie personnelle pour proposer justement des accompagnements réellement efficaces. Donc vous avez les liens de l'autre compte Instagram et du sondage dans la description de l'émission. Donc merci infiniment si vous prenez ces 2 petites minutes pour y répondre. Et pour terminer ce message, j'aimerais juste vous dire une phrase qui réunit un peu toute l'idée et tout ce qui m'anime. Raconter une histoire, c'est surtout raconter celle de quelqu'un qui a besoin de l'entendre et qui sera galvanisé par l'énergie perçue à travers ces mots-là. Voilà, je crois que c'est un bon résumé du fil rouge de ce vers quoi je vais et ce qui m'anime. C'est tout pour moi et du coup, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Aujourd'hui, je vous préviens, il s'agira de faire place à des choses qui nous échappent, des choses mystiques, à l'opposé de la preuve et de la science. De faire place à une part de la vie à laquelle on ne pense pas souvent. De faire place à des faits obscurs et des intuitions qui échappent à notre conscience. Qui ne s'est pas déjà posé la question de ce qui se cache derrière la mort? Qui ne s'est pas un jour demandé si les défunts pouvaient communiquer avec nous, de si des personnes avaient la capacité de lire l'avenir, ou encore de plonger dans des vies antérieures? Malgré mon esprit cartésien, je dois l'avouer, j'ai toujours été intriguée par ces rumeurs d'esprits errants, de clairvoyance et de médium. Je n'ai jamais été jusqu'à consulter une personne dans le milieu. Néanmoins, j'ai toujours ressenti cette sorte d'intuition qu'une grande partie des événements nous échappe, comme s'il y avait quelque chose de plus grand, de supérieur, d'inexplicable. Par curiosité, j'avais réalisé un sondage sur Instagram afin de savoir si vous aussi, vous aviez ce genre de croyance. Et j'ai été étonnée de voir que la grande majorité d'entre vous croit au paranormal et aux forces mystiques. C'est donc avec joie que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui sur le podcast une personne qui possède de nombreuses facultés. Avis aux sceptiques, accrochez-vous, car cet épisode pourrait bien vous perturber. Par-delà ces dons, Audrey, que je reçois ce jour, est également une vraie guerrière, qui se bat contre des maladies rares depuis des années. Cet épisode permettra, j'espère, de parler fort de sujets souvent secrets, mais aussi de mettre la lumière sur des maladies réellement handicapantes. Et pour la petite anecdote, cela fait maintenant 3 fois que nous réessayons d'enregistrer ce podcast, puisque mon ordinateur a littéralement planté quand nous avons commencé à parler de sa médiumnité. Mais vraiment planté, ça ne m'est jamais arrivé de toute l'histoire du podcast. Donc voilà, là j'espère vraiment que ça va marcher, qu'on va mettre de bonnes ondes entre nous et que les énergies ne vont pas faire planter cet autre ordinateur que j'ai dû prendre pour en secours pour pouvoir enregistrer l'épisode. Donc bonjour Audrey, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel âge as-tu et ce que tu fais dans la vie ?
Bonjour Marie, du coup c'est un plaisir pour moi aussi d'être accueillie dans ton podcast, ça me fait vraiment super plaisir et donc du coup là on peut découvrir enfin ce que je vis au quotidien avec l'internet, les réseaux et les ondes car c'est pas la première fois que ça m'arrive et j'ai ça depuis toute petite et donc pour répondre à ta question, je m'appelle Audrey Atome, j'ai 30 ans, je suis médium thérapeute, énergéticienne, formatrice mais aussi créatrice, illustratrice et auteure de mon oracle des lueurs nocturnes que j'ai auto-édité grâce à une campagne de financement participatif. Moi, je fais beaucoup de choses. J'adore faire tout ce qui est possible et inimaginable pour découvrir le monde parce que j'ai besoin de pouvoir évoluer en comprenant ce qui se passe autour de moi, donc au niveau des êtres humains, mais aussi de l'univers, de ce qui se voit et de ce qui ne se voit pas. J'ai besoin de comprendre qui je suis, qui sont les autres, quelles sont nos différences, mais aussi les choses qui nous rapprochent. J'ai vraiment besoin de connaître toutes ces choses-là et c'est pour ça que, du coup, aujourd'hui, je peux te parler de ma médiumnité, mais aussi de toutes les autres choses que je fais grâce à des choses qui semblent très loin justement de tous nos côtés cartésiens et qui finalement peuvent nous permettre de découvrir un nouveau monde qui est tout aussi passionnant et qui fait ses preuves de plus en plus à notre époque.
Effectivement, tu es une personne aux multiples facettes, mais avant de parler en détail de tes facultés qui sortent de l'ordinaire, il se trouve que tu souffres de 2 pathologies assez handicapantes depuis de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avec la médecine et comment tu vis ça au quotidien ?
Oui, bien sûr. Alors en fait, moi, il faut savoir que depuis toute petite, j'ai toujours eu des problèmes de santé. Donc à partir du moment où je suis née, j'ai pratiquement été malade tous les mois de ma vie. En fait, j'avais toujours quelque chose, des otites, des angines, des bronchites, etc. Donc au début, c'était des petits trucs, mais c'était quand même assez régulier. Mais pour moi, en fait, comme j'ai toujours vécu malade, j'ai toujours considéré que c'était ma norme, en fait. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça n'était pas autant. Il n'y avait pas autant de personnes qui étaient malades tous les mois. Et en fait, en grandissant, ce qui s'est passé, c'est que mon état a continué à s'aggraver. J'ai continué à avoir d'autres petits problèmes de santé, mais c'était tout à fait vivable. Jusqu'à, en fait, l'âge de mes 10 ans à peu près, où je me suis fait piquer par une tique lors d'une balade près d'un lac et près d'une forêt. Et en fait, cette tique-là, à cette époque-là, m'a du coup donné la maladie de Lyme. Donc, la maladie de Lyme, c'est dû à une bactérie et des co-infections. Donc, en fait, il y a souvent plein de petits microbes qui se mélangent ensemble. Donc, ça s'appelle des infections. Et donc, du coup, moi, j'en ai attrapé plusieurs à cette époque-là. Ça m'a déclenché une éruption cutanée assez particulière. Ça s'appelle un érythème migrant. C'est une énorme tache rouge qui va se balader un peu partout sur le corps. Et en fait, c'est le tout début de la maladie de Lyme. Sauf que moi, en fait, j'ai tellement été malade tout le temps que mon médecin ne me prenait plus au sérieux sur tous mes problèmes, mes symptômes, etc. Et quand je suis arrivée avec cette tache-là qui se déplaçait sur mon corps, il n'a pas pris au sérieux et donc du coup, il ne m'a pas soignée. Et en fait, ça a été gravissime parce que du coup, mon état s'est aggravé au point d'avoir des états assez graves de handicap lourd, de paralysie, de grosses douleurs et beaucoup de choses très, très difficiles à vivre. Mais en fait, c'est passé inaperçu. Et comme c'est une maladie, elle aussi invisible, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, car en fait, elle ne fait pas des dégâts en tant que telle. C'est une infection qui va se positionner sur des endroits très peu accessibles du corps, mais qui pour autant vont empêcher la circulation de pas mal d'informations et du coup provoquer pas mal de symptômes différents qui sont très très compliqués à retrouver du coup vu que c'est une maladie qui se cache très très bien dans le corps. Donc, qui est présente sans qu'on puisse la capter. Donc, encore une fois, c'est un rapport aussi avec la médiumnité qui est assez intéressante parce que du coup, c'est encore une fois une maladie qu'on appelle invisible alors qu'elle est bien présente et qu'elle montre bien qu'elle est présente. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'arrivait pas du tout à me soigner jusqu'au jour où, en fait, on a découvert que j'avais les maladies de Lyme, donc près de 8 ans plus tard, donc le temps que la maladie s'installe et que mes handicaps aussi s'installent aussi. Et en fait, on a mis beaucoup de temps à pouvoir m'aider au niveau de cette maladie, la maladie de Lyme. Et en fait, il était très difficile de me soigner comme la plupart des autres gens. Et en fait, on a trouvé il y a quelques temps, grâce aux réseaux sociaux, grâce à un appel à l'aide que j'ai fait passer sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé des médecins qui ont pu vraiment me trouver en fait ce que j'avais derrière tout ça et qui m'empêchait de guérir. Et en fait, j'ai aussi une deuxième pathologie. Donc en fait, ça s'appelle le syndrome d'Ehlers dans l'os, ça s'appelle aussi le SED. C'est une maladie génétique qui touche les tissus conjonctifs, c'est-à-dire à peu près pratiquement toutes les cellules du corps, et qui nous rend carrément comme un élastique ou un chewing-gum vivant. C'est-à-dire que nous n'avons plus de structure en fait dans nos cellules, et en fait on ne tient pas droit. Donc généralement on va faire des entorses, on va avoir des problèmes de flexibilité, parce qu'on du coup va être trop flexible, et ça va agir sur le corps, mais ça va aussi agir sur le cerveau, donc aussi sur notre façon de penser qui va être différente et beaucoup plus malléable, et aussi ça va agir par exemple sur toutes nos émotions et aussi sur nos énergies si on y croit. Bien sûr, on n'est pas obligé d'y croire, mais en tout cas ça fait que du coup les informations circulent beaucoup trop vite, et comme il n'y a pas de structure, et ben du coup il est difficile de pouvoir vivre avec un corps qui n'a pas de structure. Donc voilà, c'est à peu près mes deux principales pathologies qui m'handicapent au quotidien.
D'accord, et du coup actuellement comment ça impacte ton quotidien concrètement, ces deux maladies-là?
Alors moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis dans un état quand même assez grave, car je suis du coup handicapée lourde. Je ne peux pas marcher depuis plus de 10 ans. Je ne peux pas m'asseoir non plus. Donc je suis allongée H24 dans la même position. J'ai des douleurs qui sont constantes, qui sont très difficiles à vivre et qui provoquent en grande partie mon handicap, parce que la douleur m'empêche totalement de faire pas mal de mouvements. Je ne peux pas correctement bouger mes jambes ou par exemple mon bras droit. La seule chose que je peux véritablement bouger consciemment, c'est mon bras gauche, qui m'est même maintenant très utile et que j'ai pu récupérer parce que j'avais perdu l'usage aussi il y a quelques années. Donc j'ai des grosses paralysies. Enfin, c'est pas des paralysies, je peux pas bouger. C'est un peu différent, c'est compliqué parce que c'est en lien avec les nerfs. C'est les nerfs qui fonctionnent pas très bien de mon côté. Et donc du coup aussi on a une hypersensibilité, parce que du coup comme nos cellules elles sont beaucoup trop élastiques, et du coup il y a une hypersensibilité. Donc moi je suis hypersensible. Je peux ressentir avec mes cinq sens, donc ceux qui sont bien terriens et qui sont bien explicables, ça vraiment, je ressens des choses que la plupart des gens ne peuvent pas ressentir. Je peux sentir des odeurs à travers des portes. Par exemple, si quelqu'un coupe une tomate et qu'il y a deux portes entre moi et l'endroit, je peux sentir la tomate, par exemple. Je peux ressentir aussi exactement tous les plis qui se trouvent autour de moi au niveau des tissus. Donc, j'ai une hypersensibilité des cinq sens qui est très forte. Je ne supporte pas la lumière, donc chez moi, il fait tout noir tout le temps, il y a très peu de lumière, j'ai des rideaux partout, je ne peux pas voir la lumière du jour, j'ai beaucoup de mal à entendre, s'il y a trop de bruit en même temps, c'est difficile pour moi d'entendre. Donc il y a une hypersensibilité des cinq sens, il y a donc du coup une hypersensibilité aussi à la douleur. Et il y a aussi pas mal d'autres problèmes, comme le fait par exemple que je ne peux pas avaler correctement comme la plupart des gens, donc il y a des aliments que je ne peux pas avaler. Et d'un autre côté, j'ai eu aussi une longue période où je ne pouvais pas non plus parler, donc je suis restée... pas mal de temps sans pouvoir parler, ce qui était très difficile pour moi qui suis très bavarde, comme on peut l'entendre. Mais en tout cas, c'est ce que je vis dans mon quotidien, donc des handicaps lourds, mais je vais de mieux en mieux. Et aujourd'hui, je peux parler parce que j'ai eu les traitements adéquats, et ça, c'est vraiment, ça m'aide beaucoup. Et donc, j'espère, grâce à tout ce que je suis en train de faire maintenant et à toute l'aide que j'ai reçue de ma communauté et de tous ceux qui me connaissent, de pouvoir avancer avec des bons médecins et avec des bons traitements.
Bah c'est super fort ce que tu racontes. Enfin, je me doute que c'est un quotidien vraiment très dur à vivre. Je tiens à préciser pour tous ceux et celles qui nous écoutent que tu as fondé une association qui s'appelle Mal à Lyme, qui te permet de sensibiliser à la maladie de Lyme, mais aussi de récolter des fonds pour payer tes frais médicaux. Parce que à l'heure actuelle, de quelle prise en charge tu bénéficies pour cette maladie ?
Alors en fait, la maladie de Lyme n'est vraiment pas bien reconnue, voire pratiquement pas en France. En fait, il faut considérer qu'en France, la maladie de Lyme, il y a normalement 3 mois de traitement par prise antibiotique maximum, et ils considèrent en France qu'à partir de 3 mois, on est guéri de cette maladie. Sauf que ça a été prouvé un peu partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, et dans tous les autres pays du monde, en fait, que cette maladie a besoin d'un traitement à très longue durée, ce qui n'est pas fait en France, et il y a besoin d'un accompagnement aussi aussi énormément sur la naturopathie autour, parce qu'en fait, un traitement antibiotique, c'est très lourd, c'est très difficile à vivre, on a des effets secondaires qui sont terribles. Et donc, moi, je n'y ai plus le droit et je n'y ai plus accès en France. Donc, du coup, je dois avoir de l'aide à l'étranger. Et actuellement, en fait, je suis en train de me battre, en fait, justement, sur pas mal d'autres pathologies de comorbidités qui se sont rajoutées et qui font qu'on n'arrive pas à guérir mes maladies non plus. Donc, j'ai par exemple développé le SAMA, qui, je pense, pourra quand même intéresser ta communauté, parce que, en fait, il y a pas mal de personnes qui déclenchent du SAMA juste après à s'être fait vacciner. C'est-à-dire que c'est une énorme crise d'allergie géante qui se trouve dans le corps. Et donc, du coup, là, pour le moment, moi, j'essaye de me soigner de toutes les maladies que j'ai récoltées parce qu'on n'a pas soigné les deux premières. Et donc, du coup, en fait, on essaye de soigner, bah, du coup, mes deux grandes pathologies, les autres que je possède. Et donc, actuellement, pour donner un exemple, j'en ai pour entre 2000 et 3000 euros de traitement non remboursé par mois, actuellement. Donc, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais, mais par contre, ça me permet d'aller mieux, parce que sans ça, en fait, je ne serais toujours pas capable de parler. Hein. Si je peux reparler, si je peux re-réfléchir, si je peux travailler aussi dans mon association, c'est grâce à ces traitements qui coûtent extrêmement cher, mais qui par contre sont très efficaces. Et donc, du coup, pour pouvoir, alors c'est un cercle à la fois vicieux mais à la fois vertueux, c'est-à-dire que du coup, ben, ces médicaments-là qui me coûtent très cher me permettent à moi d'aller mieux pour pouvoir du coup proposer mes services, pour pouvoir aider des personnes qui en ont besoin, et du coup en échange de dons qui me permettent à nouveau de payer mes médicaments et d'aller mieux et de potentiellement guérir. Donc c'est tout un travail, je fais ça depuis plusieurs années pour mon association et ça m'a vraiment énormément aidé à sortir de cette situation extrêmement compliqué que je vis du coup maintenant depuis 30 ans en fait.
Ouais, je me doute. Et alors on en a un petit peu parlé au début, mais donc tu es médium. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la médiumnité, est-ce que ça implique, et puis comment tu la vis au quotidien?
Oui, bien sûr. Alors du coup, la médiumnité pour moi, c'est la capacité de pouvoir se connecter à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où. Ça peut paraître un peu fou, mais déjà le mot médium, ça veut dire moyen. Et donc, c'est le moyen de. Donc, c'est un moyen d'être en contact, de mettre en contact deux choses différentes, deux entités différentes. On a déjà la taille médium dans les vêtements qui est la taille intermédiaire. Eh bien, en fait, c'est la même chose. Un médium, comme on l'entend souvent parler, c'est donc un intermédiaire entre deux choses. Et donc, du coup, moi, je peux faire l'intermédiaire et donc être, on va dire, la traductrice, par exemple, entre des âmes et des êtres vivants, entre des êtres vivants, mais aussi d'autres êtres vivants. Parce qu'en fait, par exemple, toi et moi, là, qui sommes en train de faire le podcast actuellement, nous sommes en plein moment de médiumnité. On est, on va dire, le podcast et notre médium à tous les deux. Il nous permet de communiquer à distance. Et donc, moi, je considère que je suis comme ça. Bah, je suis comme ton système Internet qui permet d'être notre médium à notre discussion. Et donc, en fait, il y a des médiums partout. Tous les êtres humains sont des médiums. Tous les animaux sont des médiums aussi. En fait, tout est médium. Mais par contre, en fait, il y a certaines personnes qui, on va dire, ont développé. Donc, je dis bien développé parce que je considère que tout le monde l'a. Donc, il y a certaines personnes qui ont développé ça de manière un peu plus forte. Donc, il y a des grands communicants, par exemple, comme des politiques qui sont des grands médiums terre à terre. Et puis, il y a des gens comme moi qui font aussi sur des plans différents, comme par exemple les plans des défunts, mais aussi des animaux, des plantes, des êtres vivants, des organes du corps humain. Bref, tout est possible. Le médium, c'est vraiment celui qui peut communiquer avec absolument tout, mais aussi dans n'importe quel espace-temps. Et c'est pour ça que du coup, on a des sous-parties. Il existe du coup, par exemple, les personnes qui sont dites intuitives. Et les personnes intuitives, elles vont pouvoir se connecter uniquement avec ce qui se trouve sur la planète Terre. Mais ils peuvent se connecter aussi n'importe où et n'importe quand. Ce qui fait du coup qu'on a souvent, par exemple, ce qu'on appelle des voyants. Ça, pareil, on pourrait en rediscuter du mot voyant parce que la plupart des voyants ne voient pas forcément, mais ils peuvent ressentir ou entendre. C'est un canal sensoriel différent. Mais en tout cas, ils sont capables de capter l'avenir ou aussi le passé. Et ça, c'est une sous-partie de la médiumnité. Mais ils le font sur Terre. Donc, c'est ça la médiumnité. Tu me dis si ça te parle, si tu as besoin que je détaille.
D'accord. Non, mais c'est passionnant. Mais du coup, toi, est-ce que tu ressens les choses? Si j'ai bien compris, tu ne vois pas, tu n'entends pas, mais tu ressens.
Alors,
C'est ça, c'est un peu flou pour moi.
Oui, alors en fait, c'est assez compliqué parce que moi, c'est pour ça que ça a été difficile pour moi de découvrir que j'étais médium, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai toujours pu capter tout ça. Et pour moi, c'était une évidence que tout le monde pouvait le faire aussi. Donc en fait, je n'avais pas de questionnement sur le fait que moi, j'avais quelque chose de différent par rapport aux autres. Par contre, j'ai toujours eu cette envie de pouvoir développer la communication et de pouvoir entrer en communication avec pas mal de monde autour de moi parce que c'est ma nature. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... quand j'ai commencé à grandir, ma mère, elle s'est bien rendu compte dès toute petite que je captais des choses que personne ne pouvait capter, comme par exemple, moi, dès qu'on allait dans des châteaux, par exemple, bah, moi, je savais à peu près tout ce qui s'était passé dans le château avant même que le guise nous le dise, par exemple, ou je pouvais savoir tout ce qui est arrivé aux amis de ma mère, si elles étaient en train de divorcer, s'il y avait une engueulade dans leur couple le jour précédent, etc., etc. Donc, je savais tout alors que je n'étais pas censée savoir. Donc, ma mère a très vite compris que je savais des choses que personne ne savait. Et en fait, ma mère, au début, quand j'ai commencé à pouvoir bien comprendre la situation, qu'elle me l'explique bien, elle me dit, bah, écoute, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on appelle des voyants, mais les voyants, ils voient. Et toi, tu ne vois pas. Et effectivement, moi, je ne voyais pas, je ressentais, j'en avais une évidence, en fait. Mais je ressentais dans mon corps. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, un matin, je suis arrivée au collège en sixième et donc du coup, je vais faire la bise à une de mes amies et en lui faisant la bise, je lui demande comment ça va. En lui faisant la bise, je ressens des coups dans mon corps, mais vraiment des coups extrêmement violents. Je sais exactement où on m'a frappée. On m'a frappée sur les côtes, sur le côté, à un endroit bien précis. J'ai senti aussi sur la poitrine, dans le cou, etc. Donc, j'ai ressenti des très grosses douleurs, comme si on m'avait frappée. Sauf que moi, je sais très bien qu'on m'avait pas frappée. Donc, pour moi, c'était une évidence que ce soit quelqu'un d'autre et vu que j'étais en face d'elle, que ce soit elle. Et donc, du coup, j'en ai parlé. Je lui dis, waouh, mais du coup, tu t'es fait battre par tes parents hier soir, mais ça va, est-ce que tu as besoin d'aide? Et en fait, là, ça a été très surprenant parce que pour moi, ce qui était une évidence et ce qui était vrai, parce que ça a été prouvé par la suite, parce qu'en fait, ma mère a fait des démarches au niveau de l'assistance scolaire et même de la directrice pour essayer d'aider ces jeunes filles que moi, j'avais la certitude qu'elles se faisaient battre. Mais du coup, à ce moment donné, lorsqu'on était dans la cour de l'école avec toutes mes autres copines et que j'annonce ça en plein milieu de nulle part, y a une engueulade qui se crée. On me dit que je mens, que c'est pas vrai, etc., etc. Et donc, du coup, là, je me rends compte qu'en fait, il y a des choses que je sais que les autres ne savent pas. Et par contre, moi, je les ressens. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai été très traumatisée. Donc, je n'ai pratiquement plus parlé à part à la maison avec ma mère, justement. Donc, ma mère était vraiment ma confidente des intuitions. Et en fait, elle était très embêtée parce que moi, je ne voyais pas. Et en fait, en grandissant, j'ai compris qu'il y avait plusieurs façons de capter le monde, déjà d'une manière très très terre-à-terre et scientifique, hein, parce que moi, j'ai quand même pas mal d'études qui sont très, très terre-à-terre, parce que je suis aussi synergologue, j'étudie le cerveau, j'étudie les neurosciences, etc., etc. Et en fait, que ce soit dans une pensée tout à fait normale d'un être humain ou alors un canal médiumnique, il faut savoir qu'on va utiliser des capteurs sensoriels. Donc, soit par exemple, on va capter par la vue et la vision, donc tout ce qu'on peut voir. Soit on va capter par l'audition, donc ce qu'on peut entendre. Soit on va capter par la kinesthésie, c'est-à-dire les sensations corporelles et les émotions. Bien évidemment, on est tous des êtres humains, donc on est tous dotés des cinq sens. Et donc forcément, on utilise tous ces trois canaux. Hein. Même d'ailleurs, ça a été prouvé, donc là je reviens un peu plus sur la science, ça a été prouvé que même les aveugles ont la capacité de voir dans leur cerveau. Donc il y a vraiment des images qui se créent dans le cerveau. Donc vraiment, on est tous dotés de cette capacité au niveau du cerveau à pouvoir capter les cinq sens. Mais il faut savoir que chacun va utiliser un sens beaucoup plus que les autres. Et en fait, moi, par exemple, que ce soit en médiumnité ou au quotidien, je suis une personne qui va plus capter le monde d'un point de vue sensitif et sensoriel, parce que déjà, je suis hypersensible, mais en plus, j'ai des grosses douleurs. Donc forcément, ça fait partie de mon quotidien que de ressentir tout très, très fort. Et donc, moi, je capte le monde médiumnique de cette manière, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment en grande partie de la kinesthésie. Mais il faut savoir que maintenant, j'ai réussi à développer parce que j'avais envie de pouvoir aussi me connecter en entendant ou en voyant. C'est vraiment, j'avais vraiment envie de développer ça. Et donc, du coup, maintenant, on va dire que je ressens à plus de 70%, on va dire. J'entends, on va dire, à 27%. Et le reste, c'est ce que je peux voir. Mais ça peut se développer. Et c'est juste un travail à faire comme le ferait n'importe quel sportif. Hein. Moi, je considère qu'un médium, c'est tout simplement un sportif de l'intuition. Il faut juste le travailler, le développer. Mais on peut vraiment moduler et vraiment faire capter les choses de manière différente, mais il faut vraiment les travailler. Mais moi, principalement, je suis kinesthésique en tant que médium.
D'accord. Waouh, c'est impressionnant. Alors, je sens arriver d'ici là les personnes sceptiques très cartésiennes. Donc, toi, est-ce que tu as déjà dû faire face à de la critique ou des personnes qui ne te croyaient pas? Et comment est-ce que tu as fait pour dépasser ça? Enfin, tu peux peut-être nous donner des expériences vécues ou des exemples concrets de ce que tu as vécu en tant que médium?
Oui, bah alors moi en fait la chose la plus impressionnante c'était vraiment cette histoire avec mon amie en sixième, et comme j'étais très jeune et que moi j'avais des grosses difficultés à pouvoir m'adapter en société, et bien du coup forcément je me suis très vite renfermée, et donc je n'en ai à partir de 10-11 ans, je n'en ai plus parlé à personne, hein. Donc j'ai vraiment été véritablement traumatisée, ça a été très difficile pour moi de vivre cette épreuve-là, du fait qu'on ne me croit pas alors que finalement c'était vrai, hein, parce que finalement on s'est retrouvé devant le directeur et effectivement cette jeune fille était battue, hein, par ses parents. Donc il s'est passé quand même beaucoup de choses, et donc effectivement mes intuitions étaient véritablement justes et prouvées, ce qui a ensuite du coup accentué le fait au niveau de ma famille qu'effectivement j'avais des capacités, enfin en tout cas au niveau de ma mère en était sûre, mais là ça l'a prouvé. Mon père du coup il a commencé un peu à y croire, mais bon, en fait il dit toujours que mon père il croit en moi, mais il croit pas forcément en les autres, donc ça a surtout été ça au début. Et comme j'en ai pas parlé pendant très 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 longtemps, bien du coup je n'ai pas eu beaucoup à faire face à la critique parce que je n'en parlais pas. Et du coup c'est pour ça que je me suis lancée dans des études qui étaient beaucoup plus scientifiques, mais toujours autour de la thérapie, parce que du coup je suis devenue hypnothérapeute, etc. etc. Et du coup j'en parlais pas trop, mais en fait en séance, ben, je me servais de mes intuitions sans le dire pour essayer d'avancer dans les thérapies. Et mes thérapies du coup marchaient extrêmement bien, et pas mal de gens ont découvert effectivement en séance que j'étais du coup médium. Et du coup, c'est ensuite mes clients qui m'ont demandé en fait de l'aide avec mes capacités médiumniques. Donc on va dire que ce sont déjà des personnes qui étaient déjà en demande d'aide et qui y croyaient en partie parce qu'ils me le demandaient en fait. Donc du coup, moi j'ai rarement eu affaire à la critique parce que j'en parlais que très peu. Ensuite, j'ai commencé à en parler à mes amis, et mes amis y croyaient aussi, donc ça s'est toujours très bien passé. Et les personnes qui n'y croyaient pas trop, de toute manière je tâtais le terrain, les personnes qui n'y croyaient pas trop, je n'en parlais pas. Donc vraiment, j'ai fait un tri très important. Et en fait, quand je l'ai vraiment dévoilé au grand jour, j'ai été stupéfaite, mais vraiment stupéfaite, parce que moi j'ai voulu le cacher pendant longtemps, mais j'étais stupéfaite de voir le nombre de personnes qui étaient intéressées par le sujet et qui n'osaient pas en parler. Et alors là, il y en a un peu plus sur les réseaux actuellement, mais il y a quelques années, c'était vraiment très très peu. Et sur Facebook, dès la première publication que j'ai faite sur le domaine médiumnique, alors qu'avant, je me tapais toujours des 1 ou 2 likes sur mes publications, mais là, je me suis retrouvée avec plus de 200 commentaires justement sur ce sujet-là. Donc je me suis rendu compte que finalement, le monde n'était pas si sceptique que ça, n'était pas si critique que ça. Et de toute manière, si le monde est critique, il y a toujours moyen de pouvoir prouver en fait que ça fonctionne. Moi, dès qu'il y a une personne critique en face de moi, je dis bah, ok, on en discute, et puis je peux te prouver en fait que ça existe et que ça existe vraiment. Est-ce que je peux te dire quelque chose sur par exemple quelque chose que je ressens sur toi que personne ne peut savoir? Et généralement, je sors ça, et la personne qui était sceptique, bah, en une seule réponse, elle ne l'est plus, parce que je dis des choses que personne ne pouvait savoir avant. Donc franchement, très honnêtement, j'ai eu très peu à faire à la critique, et je me rends compte qu'en fait vraiment on a tous peur d'en parler alors qu'on est tous intéressés par ce sujet. On est d'accord, hein. Moi ouais. Je m'occupe de personnes en séance, j'ai des personnes qui viennent de la NASA, donc quand même ça va quand même très loin. J'ai des personnes très terre à terre, des personnes qui sont avocats, des personnes qui sont politiques, etc. Et donc on croirait que ce sont des personnes qui n'y croient pas, mais en fait elles y croient. Donc vraiment je pense que c'est un sujet dont on a juste peur de parler, mais dès qu'on en parle, je n'ai que très rarement eu critique. Les seules critiques que j'ai eues ces dernières années, c'était mon frère et ma sœur qui n'y croyaient pas du tout, et qui du coup eux, ça ne leur parle pas ce sujet. Et en fait c'est juste à force de me côtoyer, que je puisse en parler au grand jour et pas uniquement à mes parents et mes amis, ils ont compris que c'était vrai, parce qu'il leur a fallu que je leur prouve en quelques fois, et puis une fois qu'on a prouvé, c'est passé. Les gens, ils ont juste besoin de preuves, hein. Donc il suffit de prouver et puis c'est bon.
Ouais. Mais c'est hyper intéressant. Et tu vois, enfin, quand j'ai posé la question sur Instagram de si ça intéressait le paranormal, etc., j'ai eu plein de réponses comme quoi des personnes avaient déjà vécu des expériences un peu bizarres avec des bruits dans la maison. Moi, tu vois, enfin, j'en parle très très peu, mais j'ai le souvenir quand j'avais 13 ans, on était dans une maison avec mes parents parce que notre maison était en travaux, donc on était dans une maison en attendant une vieille maison à nos amis. Et une nuit, je me suis réveillée et j'ai vu, mais vraiment, j'en suis sûre, je sais ce que j'ai vu. J'ai vu une forme bleue, blanche, voler dans les airs pendant une dizaine de secondes. Et j'étais vraiment réveillée et j'étais paralysée de frayeur parce que je me suis dit, mais tu vois un truc et puis t'as l'impression que le temps s'arrête. Et depuis ce jour, je crois que je me suis toujours dit, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choses qui relèvent de l'inconnu que la science n'arrive toujours pas à expliquer. Et j'ai toujours eu la certitude qu'il y avait des gens comme toi qui avaient des facultés de communiquer justement avec des personnes qui ne sont plus de ce monde. Mais du coup, pour aller un peu plus dans le détail de toi, ce que tu proposes, quel type d'accompagnement, qu'est-ce que c'est une séance avec toi, en quoi ça consiste ?
Alors, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire juste avant, ce qui est très intéressant de remarquer, c'est que l'être humain est un peu complexe, était un peu particulier et surtout est assez incohérent. Parce qu'il faut déjà quand même bien se dire que nous, en tant qu'être humain, nous sommes faits à 99,99999% de vide. C'est-à-dire que déjà, nous ne tenons parce que, en fait, il n'y a que des énergies qui nous tiennent. Les atomes, c'est quoi ? Ce sont des particules qui vont être chargées. Alors, il va y avoir les particules qui vont être chargées positivement, les particules qui vont être chargées négativement et celles qui vont être neutres. Et on connaît très bien les atomes, on sait très bien que ces particules-là, elles tiennent en suspension, elles tiennent avec de l'énergie qui flotte. Donc déjà, de se dire qu'on est tous faits de 99% de vide, alors qu'on a l'impression d'être tous pleins, c'est déjà, le fait qu'on croit qu'on est des êtres humains, déjà, pourrait, dans ces cas-là, pour toutes les personnes sceptiques, sembler être une aberration. Et donc, du coup, moi, je considère que, étant donné qu'on arrive justement à avoir du matériel que l'on peut toucher, qui est palpable autour de nous, alors qu'il est fait à 99,9% de vide, je considère qu'on peut quand même aller beaucoup plus loin et qu'en fait, c'est tout à fait possible de croire en quelque chose que l'on ne voit pas, étant donné que nous, on nous voit alors qu'on est vraiment fait en grande partie de vide. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, je vois un peu, c'est complexe, mais je vois.
Ouais, c'est un peu complexe, mais en gros, en fait, tout ce que l'on voit n'est pas forcément réel, on va dire, et tout ce que l'on ne voit pas n'est pas forcément irréel non plus. On est vraiment dans un monde très complexe, et à partir du moment où on croit que quelque chose existe, peu importe ce que c'est, si c'est quelque chose de terre à terre ou non, bah, en fait, elles sont toutes régies par les mêmes énergies que sont tous simplement les atomes, et c'est tout. On est vraiment le seul point commun qu'on a dans ce monde, c'est vraiment ces atomes, et en fait on est vraiment tous on a tous cette capacité là de pouvoir justement créer quelque chose à partir quelque chose de visible à partir de quelque chose qui ne l'est pas. Donc c'était cette petite partie.
D'accord.
Du coup, si je peux me permettre de redemander ta question comme ça, tu pourrais répondre.
Du coup, quels accompagnements est-ce que tu entreprends avec les gens, quels sont les types de consultations?
Alors, les types de consultations uniquement autour de la médiumnité ou tout en général ?
Oui, ou en général même.
Ok, alors moi en général, comme je suis médium thérapeute, j'ai plusieurs façons d'approcher les situations. Déjà du coup, je suis spécialisée dans tout ce qui est invisible, mais je suis spécialisée aussi dans tout ce qui est visible. Donc moi en fait, pour être très honnête, j'ai aucune limite. Je pense que tout est possible et en fait, je peux aider n'importe qui à résoudre les problèmes qu'il a, que ce soit du domaine physique, que ce soit du domaine émotionnel, mental ou encore énergétique ou astral. Pour moi, je pense que tout est relié et que en fait, tout n'est qu'un effet domino en fait, et que tout est relié. Donc moi vraiment une grande partie de mes thérapies sont dans ce sens-là, donc c'est dans la capacité de pouvoir aider quelqu'un avec différentes méthodes qui vont pouvoir toucher différents plans sur notre être. Donc en fait moi ce que je fais en thérapie générale, il y a deux façons par laquelle je peux procéder. En fait il y a d'abord les personnes qui cherchent à avoir des réponses à leurs questions, parce que parfois il leur arrive des problèmes dans la vie qui sont récurrents ou alors des choses qui sont ponctuelles mais des choses qui leur fait douter et qui les empêchent de pouvoir avancer dans la vie. Donc là je vais répondre à leurs questions et cette fois-ci je vais principalement me connecter quand même avec des énergies assez subtiles, par exemple pour pouvoir répondre à des questions sur les personnes qui se posent des questions sur leur avenir, mais aussi sur leur passé. Il y a des personnes qui se posent aussi des questions sur les réincarnations ou alors sur les qu'est-ce qu'on fait sur Terre, etc. Donc vraiment, je peux répondre à pas mal de questions, mais aussi sur l'origine, par exemple, de maladies ou alors d'émotions ou de mental. Bref, moi, je m'occupe de tous les domaines, c'est-à-dire que ce soit physique, émotionnel, mental ou encore énergétique, je peux accéder à tous ces plans-là et je peux trouver les réponses aux questions que les personnes se posent quand elles viennent me voir en séance Donc, c'est vraiment la partie où je peux répondre aux questions. Et donc, j'ai une autre partie où là, on résout les problèmes. Pareil, je peux m'occuper du physique, de l'émotionnel, du mental et de l'astral. Parce que pour moi, tout est relié. Il y a vraiment tout est ensemble. Et je pense que c'est toujours un effet domino. Hein. C'est-à-dire qu'on peut agir sur le corps grâce à l'esprit. On peut agir sur l'esprit grâce aux émotions, etc., etc. Et donc, du coup, moi, mes thérapies fonctionnent de cette manière. Et je ne sais jamais ce que je vais faire à l'avance. Jamais. Mais par contre, on est toujours surpris parce qu'en fait, tout le monde est différent. Et tout le monde va avoir un problème différent. Par exemple, si je reçois toujours la même plein de personnes avec toujours le même problème, comme par exemple de l'endométriose, qui est vraiment un sujet, par exemple, dont on parle beaucoup en séance actuellement, je vais avoir un type de thérapie différent pour chaque personne qui vient avec de l'endométriose, parce que l'origine n'est pas toujours la même. Et à partir du moment où on trouve l'origine, on peut travailler avec des méthodes selon ce que les personnes ont envie, soit des méthodes terre à terre, soit des thérapies sur le corps, des thérapies sur l'esprit, comme par exemple l'hypnose, les thérapies sur le corps, ça va être le non-verbal, la synergologie, ça peut être aussi sur le mental, avec des méthodes comme par exemple les neurosciences, etc., etc., ou alors l'énergétique que je fais aussi. Et donc du coup, on trouve justement le moyen de résoudre des problèmes grâce à... en fait, à la compréhension et la conscience de ce qu'on est né en train de vivre. Parce que je considère que la guérison passe vraiment par la conscience. Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ce que je vis et qu'est-ce que je peux faire justement pour guérir ? Ça peut paraître complexe, hein, surtout moi qui suis malade, mais moi je considère qu'une grande partie de ma guérison des dernières années n'est pas uniquement due aux médecins, mais c'est aussi en partie avec tout ce que je travaille aussi en parallèle. Donc, c'est un peu comme ça que je procède en thérapie, mais donc je ne sais absolument pas ce que je vais faire avant qu'on le fasse. D'ailleurs, je ne me connecte pas avant parce que sinon j'ai toutes les idées qui m'arrivent avant la séance et donc là je suis envahie au quotidien parce que moi, ma médiumnité elle est constante, hein, c'est H24. Dès que je rencontre quelqu'un, bah, je sais en partie ce qu'elle a vécu. Donc, c'est quand même quelque chose de très compliqué à vivre. C'est pour ça que je suis un petit peu aussi... des fois, je disparais des réseaux. Je ne réponds plus aux messages parce que je ne suis pas en énergie de pouvoir le faire. Mais par contre, quand je le fais en séance, je sais que je vais pouvoir avoir cette énergie-là qui va être pleinement ouverte, pleinement libérée. Et donc, du coup, dès que la personne me rencontre par téléphone, par visio ou autre, eh bien là, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Mais par contre, j'ai déjà des clés en ma possession. Et donc, ensuite, on va pouvoir les travailler, les évoluer en fonction de ce que la personne a besoin. Même moi, je fais en fonction de la personne. Si elle n'a pas envie de faire une méthode, moi, j'en ai tellement de méthodes en tête qu'on peut trouver toujours le moyen que la personne fasse ce qu'elle a envie de faire parce que la guérison passe aussi par le fait d'être en accord avec ce qu'on fait et surtout être dans la capacité de pouvoir choisir ce que l'on veut faire, non pas que de notre corps, mais de tout notre être tout entier.
C'est hyper intéressant. Enfin, tu as vraiment une approche globale de la personne et tu t'adaptes à chaque fois. Et c'est vrai que tu me l'avais dit un petit peu, mais tu as besoin de te couper, énergétiquement avant un entretien, quand on s'était parlé au téléphone, etc., pour faire le vide, pour pas te connecter à moi, pour pas être envahie par toutes les sensations que tu pouvais ressentir à travers moi. Donc, moi, j'étais hyper impressionnée. Alors, je sais pas si c'est trop d'énergie qui a fait planter mon ordinateur tout à l'heure, hein, on ne saura pas. Mais apparemment, tu m'as dit que c'était assez fréquent chez toi de faire sauter les trucs internet et les trucs électroniques. Donc, trop d'ondes. Donc, tu dois être pleine d'énergie quelque part.
Oui, c'est ça. Moi, j'en ai beaucoup trop, en fait. Et je pense que c'est parce que j'en ai trop que j'ai du mal à gérer toute cette énergie dans mon corps. Et que du coup, les séances, moi, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de libérer tout en aidant quelqu'un ensuite. Donc, c'est quand même plus agréable.
Ouais, je vois. Et alors, tout autre sujet, mais en cherchant un petit peu toutes ces histoires de médiumnité, etc., j'ai parfois entendu parler de guides ou d'anges pour mentionner des entités qui sont supposées nous protéger. Quel est ton avis sur la question ? Est-ce qu'on a des guides, des anges au-dessus de nous ?
Alors ça, vraiment, je considère que c'est vraiment chacun qui va choisir ce qu'il décide de faire de l'énergie qu'il reçoit et celle aussi qu'il va manifester. Moi, je considère qu'effectivement, on a des énergies qui sont autour de nous et qui nous permettent d'être attirés par certaines choses. Moi, je considère que, par exemple, moi, je suis assez terre-à-terre de base. Donc, pour moi, ce sont des aimants qui m'attirent vers l'endroit que j'ai besoin de visiter ou que j'ai besoin de rencontrer, etc. Donc, pour moi, ça ressemble un peu plus à des aimants. Mais en fait, il y a des personnes qui ont besoin, par exemple, de personnaliser cette énergie-là qui va nous guider souvent parce qu'il y a aussi un manque de confiance et qu'on a besoin de faire confiance à quelqu'un d'autre que soi-même. Mais pour être très honnête, moi, je considère que cette énergie-là, par exemple, de guide ou d'ange, c'est en partie notre propre énergie. qu'on décide de suivre. Mais après, effectivement, on peut la personnaliser si on a envie. C'est notre énergie, on en fait ce qu'on veut. Et c'est l'énergie du monde, on en fait ce qu'on veut aussi. Donc vraiment, on peut l'imaginer en le personnalisant en tant que, par exemple, des guides qui ressemblent à des êtres humains. Donc il y a des gens qui vont effectivement voir leur guide, les entendre, les ressentir. Moi, ça m'est arrivé une fois, mais comme c'est pas, va dire, quelque chose avec quoi je suis à l'aise, par exemple, pour ma personne, moi-même, on va dire, moi, c'est pas forcément des guides que j'ai, moi, c'est des aimants. Il y a des personnes qui vont avoir des anges. Et en fait, si moi, je me connecte correctement à la personne qui me pose cette question, ben, je vais savoir immédiatement si pour elle, ce sont plutôt des guides, si ce sont plutôt des anges, si ce sont plutôt des fées. J'ai eu des personnes qui c'est des fées. Les enfants, c'est beaucoup les fées, par exemple. Il y a aussi les lutins. Il y a aussi les synchronicités. Il y a des personnes très terre à terre qui vont s'occuper, par exemple, des heures miroirs, qui pour moi, les heures miroirs sont des guides aussi. Donc, on va dire que, effectivement, ce sont des guides dans le sens premier du terme du dictionnaire, c'est-à-dire de pouvoir nous mener quelque part, mais on n'est pas obligé de, on va dire, de le personnaliser. Ça peut vraiment ressembler à n'importe quoi. Ça peut être des paillettes, ça peut être une personne sur terre, ça peut être tout, ça peut être tout. Mais effectivement, il y a des choses qui vont nous amener dans des directions, mais parce que nous, nous décidons que nous avons besoin d'aller dans cette direction. Moi, je considère que juste on s'écoute. Quand il y a un guide, c'est juste qu'on s'est écouté et que du coup, on a suivi l'énergie qui va nous guider à l'endroit où nous, nous avons besoin d'aller.
Ouais, je vois. Et très intéressant cette notion d'énergie un petit peu qui nous entoure et qui fait que l'on va vers certaines choses plus ou moins, cette espèce d'intuition. Alors quand on avait parlé ensemble au téléphone, tu m'avais dit à un moment donné à un moment donné tu n'avais plus eu peur de la mort. Selon toi, que se passe-t-il justement quand on passe de l'autre côté ?
Alors moi, je pense que lorsqu'on passe de l'autre côté, c'est tout simplement qu'en fait, l'énergie qui se trouve à l'intérieur de notre corps, qui est donc, on va dire, malgré tout emprisonnée dans un corps, hein, mais ça c'est pareil, c'est la volonté de l'âme d'après moi, on va dire qu'il y a l'âme qui est dans notre corps, et à partir du moment où, on va dire, l'âme a fini ce qu'on appelle sa mission d'âme, c'est-à-dire que normalement, elle vient sur Terre, en fait, on va dire, en signant un contrat, en disant « Ok, je viens sur Terre pour cette raison, parce que j'ai ceci à faire sur Terre », et une fois que c'est fini, eh bien, en fait, l'énergie, d'après moi, en fait, elle se rend tout simplement à l'univers. Donc, c'est-à-dire que c'est, pour moi, ça ressemble, comment dire, au départ, quand on meurt, vraiment, il y a cette énergie qui est très regroupée, effectivement, dans une forme qui est très humaine. Elle va, on va dire, un petit peu flotter, on va dire, dans les airs. Enfin, c'est comme moi, je le perçois, mais vraiment comme des atomes, hein. C'est-à-dire que c'est pas tout relié, ce n'est pas dense, c'est vraiment quelque chose de très subtil. Et en fait, au fur et à mesure, cette énergie-là, elle va pouvoir s'éparpiller dans l'univers. Et moi, je considère que du coup, une âme s'éparpille dans l'univers et ensuite, elle va en rencontrer d'autres et elles vont ne former qu'une. Et en fait, je ne considère pas qu'on va dire une âme va être forcément toujours la même tout au long de son voyage dans l'univers après une prochaine incarnation, si on croit aux prochaines incarnations. Je pense qu'il y a un mélange d'énergie et c'est pour ça qu'il peut y avoir, quand on parle de réincarnation, donc là je vais déjà un peu plus loin, mais je pense que ça pourra vous intéresser, toi et tes auditeurs, mais le fait que par exemple il y a pas mal de personnes qui disent oui, donc moi je suis l'incarnation de Louis XIV, alors il y en a plein qui effectivement se font des idées, hein, mais il y en a plusieurs qui peuvent effectivement avoir une réincarnation par exemple de l'âme de Louis XIV, mais comme l'âme, elle s'est éparpillée, eh bien, en fait, il n'y a que des petits morceaux qui sont venus s'incarner dans des incarnations. Et donc, je pense que d'incarnation en incarnation, on mélange pas mal d'âmes différentes et ensuite, on se réincarne. Donc, moi, c'est juste une énergie qui va flotter dans les airs. C'est exactement comme l'énergie d'un ordinateur. À partir du moment où l'énergie de l'ordinateur ne circule plus dans l'ordinateur, elle va circuler dans tout le réseau électrique parce qu'elle a besoin d'aller quelque part. Et ensuite, elle ira se mettre ailleurs en se mélangeant avec d'autres énergies. Je ne sais pas si tu vois un petit peu.
Ouais, c'est flou, mais j'aime bien l'idée d'énergie qui se disperse. Et c'est pour ça que tu m'avais dit que quand quelqu'un vient juste de mourir, son énergie, elle est encore très, très forte et très concentrée autour des personnes proches, etc. Et que petit à petit, plus les personnes font leur deuil, plus ça s'éparpille plus lointainement.
Effectivement. En fait, quand on pense à un défunt, mais ça peut être aussi pour les êtres vivants aussi, mais quand on perd quelqu'un, c'est assez difficile et souvent on a besoin d'avoir besoin de cette personne près de nous. Et donc ça va être vraiment l'effet aimant, hein, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est qu'on a besoin de cette énergie-là, de ressentir l'énergie de nouveau de cette personne. Et on va considérer, on va dire qu'en essayant de l'attirer vers nous, elle va rester auprès de nous. Mais il faut bien considérer en fait que cette énergie-là, elle a besoin de pouvoir s'éparpiller. L'énergie, c'est comme l'air. Hein. L'air, il n'aime pas être enfermé parce que plus il est enfermé et plus il va stagner et moins il va être présent. Donc, le but, c'est de pouvoir éparpiller l'énergie. Et en fait, une fois qu'une âme est sortie du corps, eh bien, l'énergie a besoin de s'éparpiller pour ensuite se sentir de nouveau libre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même les êtres humains qui ont une énergie assez puissante aussi, qui vont demander à cette énergie de se rapprocher d'elle le temps qu'elle fasse le deuil. Donc là, cette énergie, du coup, des défunts reste assez dense. Mais plus le deuil est fait tôt, plus l'énergie s'éparpille et plus ensuite, on a de facilité à pouvoir de nouveau rencontrer et surtout communiquer avec cette âme. Parce que plus elle est dense, moins il est facile de communiquer avec elle. Plus elle est éparpillée, plus il est facile de communiquer avec elle. Donc en fait, si on veut vraiment communiquer avec nos défunts, et ça c'est un conseil que je donne parce que ça fait beaucoup de bien, c'est de vraiment finir son deuil. Parce que juste après le deuil, on peut vraiment beaucoup mieux entrer en contact avec toutes les personnes défuntes. Ça c'est vraiment D'accord. génial.
Et du coup, bah, parmi tes facultés, tu as la possibilité de communiquer avec les morts. Concrètement, comment ça se produit? Que se passe-t-il? Est-ce que tu as déjà eu de belles expériences ou au contraire de mauvaises expériences?
Ah bah alors j'ai vraiment eu de tout hein, parce que c'est vrai que ça dépend aussi du niveau où se trouve l'âme hein, effectivement si elle vient tout juste de mourir, c'est vrai qu'il reste des particules d'énergie difficiles du moment de la mort par exemple qui restent un petit peu accrochées. Plus les proches par exemple pensent que la personne a souffert, et ben plus l'énergie par exemple va être effectivement dans une énergie difficile à pouvoir capter aussi parce qu'il y a de la souffrance autour. Donc ça va être difficile, mais là du coup c'est ce qu'on va faire en tant que médium. Souvent c'est des passages d'âme. Alors les passages d'âme, c'est toujours en fait aider cette énergie-là à pouvoir se disperser et à pouvoir se rendre à l'univers. Enfin, c'est ma vision des choses. Hein. Je sais qu'elle peut être partagée ou qu'elle peut être. Il y a plein de gens qui vont avoir des avis différents d'ailleurs sur ce sujet. J'ai oublié de le dire au début, mais en fait chacun va avoir sa vision de la mort, chacun va avoir sa vision de l'âme, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on ne peut pas véritablement prouver maintenant, sauf si on est plusieurs médiums sur le même type de d'informations qui. Si on dit la même chose, effectivement, là, on peut se dire qu'effectivement, il y a une certaine forme de vérité. Mais comme c'est un sujet qu'on parle assez peu, on ne peut pas encore prouver ce qui se passe vraiment. Moi, c'est vraiment mon point de vue, c'est mon expérience, c'est ce que je vis des choses. Et donc, c'est la façon dont je vois les choses. Mais on pourra entendre plein de versions différentes. Je tenais à le dire quand même parce qu'on peut entendre plein de versions différentes sur ce sujet. De mon côté, vraiment, quand j'entre en contact avec un défunt, eh bien, moi, comme je suis du coup médium kinesthésique, je vais principalement ressentir la personne. Si le consultant vient me demander si la personne a souffert, par exemple, eh bien, effectivement, je vais ressentir le moment de la mort. Et donc, c'est forcément assez difficile pour moi en tant que médium. Et c'est pour ça que je ne me suis pas lancée étant toute jeune, parce que je n'avais vraiment pas l'expérience de pouvoir gérer des douleurs aussi intenses. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était très compliqué, par exemple, d'aller dans des vieux lieux. Moi, j'ai une phobie de tout ce qui est vieux, les châteaux, je déteste ça, parce que du coup, pour moi, je rentre en contact avec les moments de la mort qui peuvent être difficiles pour certains, hein, parce que rencontrer une personne qui s'est fait décapiter, ça fait un peu mal à la gorge, hein, donc c'est un peu compliqué. Donc, il faut vraiment être préparé avant de pouvoir se connecter, parce que c'est quand même quelque chose d'assez difficile à vivre, surtout que moi, du coup, je le ressens dans mon corps, donc ça fait une puissance qui est décuplée comparée à une personne qui va voir. Non pas que je réduise les souffrances, hein, mais quand on voit, forcément, ça passe par le canal uniquement visuel, tandis que quand on ressent, c'est tout le corps qui est mis en action, donc forcément, on va le ressentir partout. Et donc, du coup, moi, je vais ressentir cette âme, je vais ressentir plutôt son énergie, comme par exemple toi tout à l'heure, où je te disais qu'un des membres que je ressentais avait une énergie assez stricte, avec oui. un fort caractère, voilà.
Oui, ben, parce que juste quand mon ordinateur buguait et ramait, tu t'es connecté un petit peu à mes énergies, tout ça, et tu as apparemment ressenti quelqu'un proche de mon entourage, apparemment mon arrière-grand-mère,
c'est ça.
Qui effectivement a un très fort caractère, mais bon.
Voilà. Eh bien, à partir du moment, en fait, où je me connecte avec ton arrière-grand-mère, eh bien, en fait, j'ai carrément sa personnalité qui, on va dire, va ressortir à travers mon corps, donc je vais la ressentir. Bien évidemment, quelque chose de très important, je ne fais pas du tout incorporer une âme dans mon corps, parce que déjà, je suis en train de galérer avec mes problèmes d'humain, donc je ne vais pas faire rentrer quelqu'un d'autre à ma place. Donc, on va vraiment rester en contact comme si on discutait. Donc, pour moi, j'ai cette sorte d'énergie, en fait, je ressens la personne et sa présence, un peu comme n'importe qui peut ressentir une présence, par exemple, de quelqu'un qui la suit dans la rue. C'est exactement la même sensation que je ressens. C'est-à-dire que je ne vois pas la personne, je ne l'entends pas, mais par contre, je ressens qu'elle est présente. Exactement comme lorsqu'on est suivi dans la rue, c'est exactement la même sensation, pour ma part en tout cas. Donc, je ressens qu'elle est présente. Et ensuite, je vais communiquer, c'est-à-dire que dans ma tête, je vais penser aux questions, aux paroles, etc., etc. Et ensuite, je vais ressentir une réponse que je vais pouvoir traduire en mots. Donc, bien sûr, traduire des ressentis en paroles, c'est toujours quelque chose de compliqué parce que là, on passe d'un médium à un autre, hein, c'est-à-dire d'une capacité à communiquer à une autre. Mais il y a certaines personnes que je vais pouvoir aussi entendre. C'est pour ça que j'ai développé mon canal auditif médiumnique pour pouvoir entendre ce qu'ils ont à dire. Donc, certains, je vais entendre le son de leur voix. Je vais entendre certains mots employés. Je vais entendre, par exemple, peut-être des prénoms. Ça, c'est un petit peu plus rare, mais j'en entends. Et ça, c'est comme ça que je communique avec les personnes qui sont décédées. Et ensuite, on peut avoir des discussions tout à fait normales avec eux, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent un professeur d'histoire qui est avec moi en ce moment. Il me raconte des trucs sur l'histoire que je ne connais absolument pas, mais vraiment absolument pas, j'en ai jamais entendu parler. Mais par contre, dès qu'il m'en parle, je vais toujours vérifier après sur internet pour voir s'il me dit des conneries ou pas, et en fait il a toujours raison. Donc en fait, si par exemple j'avais envie lors d'un examen, ça m'est arrivé d'ailleurs, au lycée et au collège, quand je n'avais pas de réponse à mes questions, je trouvais quelqu'un qui était spécialiste dans ce domaine au niveau de quelqu'un de décédé, je lui demandais la réponse, et donc du coup il me donnait la réponse, et effectivement c'est tout le temps juste, hein. Moi, tout ce que mon historien me dit actuellement, par exemple, c'est tout le temps juste ce que je trouve sur internet. Donc c'est passionnant de se dire que même moi je suis surprise, hein, même moi la sceptique je suis surprise, hein. Mais effectivement c'est à chaque fois juste, donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, mais avec moi.
C'est fou, mais ça veut dire que du coup les défunts sentent que tu peux communiquer avec eux s'ils viennent vers toi.
Oui, tout à fait, mais en fait ils essayent avec tout le monde, hein, qu'on soit très clair, ils essayent avec tout le monde, sauf que comme moi je suis dans une énergie, enfin comment dire, moi je suis une personne qui souffre énormément, qui n'a pas envie d'être dans son corps parce que j'ai vraiment très mal, parce que ma maladie est douloureuse, parce que je suis en paralysie, et que forcément il est beaucoup plus agréable de pouvoir se balader et être tranquille dans un milieu beaucoup plus subtil, et c'est ce que j'aime faire. Donc moi forcément je suis déjà sur cette fréquence là qui est beaucoup plus accessible pour les défunts, mais les défunts ils communiquent avec tout le monde, mais absolument tout le monde. Sauf que moi j'arrive à le capter en fait, et que déjà j'y crois, et le fait déjà d'y croire, ça fait pour beaucoup dans le fait de pouvoir capter les informations. Ça c'est vraiment une grande différence, et c'est comme ça que je procède.
Ah mais c'est hyper intéressant.
C'est sur ces mots que s'achève la première partie de l'épisode avec Audrey. J'ai été ravie de vous faire écouter cette première partie qui, on peut le dire, est très intrigante. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous découvrirez dans les deux prochains épisodes à quel point la vie de médium peut être passionnante. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et surtout n'oubliez pas, soyez sages, un peu, et parlez fort, beaucoup.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.